Alors très bien, on va finir avec ce troisième panel. On va finir la journée avec ce troisième panel qui porte sur déparlementarisation, l'institution dans la tourmente. Alors tout d'abord, je remercie infiniment Élise Massicard d'avoir accepté de discuter ce panel. Alors Élise Massicard qui est directrice d'études aux séries à Sciences Po de Paris. Alors malheureusement, on a été amené à modifier l'ordre des interventions. Quentin Desforges va passer un dernier parce qu'il a eu un empêchement, il ne peut pas venir tout de suite. Et puis Thérèse Farando, il n'a pas pu se déplacer pour venir en France. Du coup, je cède la parole tout de suite à Pierre France. Elle est doctorante en sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui va intervenir sur le Parlement libanais. Alors, l'intervention intitulée, son intervention intitulée D'un tamdit à l'autre, saisir la dimension institutionnelle du Parlement libanais de 1972 à 2004.
Est-ce que ça marche? Oui, bon. Merci déjà aux organisateurs de nous donner la possibilité de parler. De parler des parlements, ce qui est quelque chose d'assez rare, d'autant plus quand on est amené à parler, comme je vais le faire, d'un parlement qui ne se situe pas en Europe ou en Amérique du Nord. Les institutions parlementaires au Moyen-Orient, en Afrique, sont encore des institutions assez sous-étudiée. Je suis assez heureux aujourd'hui d'avoir l'occasion d'en parler devant vous, d'autant plus en suivant l'intervention de quelqu'un d'autre qui a déjà amorcé cette discussion sur le Parlement libanais. Alors moi, je vais resserrer, contrairement à ce que j'avais indiqué dans le titre, justement sur un certain passage de l'histoire du Parlement libanais qui est ce fameux mandat qui a duré 20 ans, de député élu en 1972, dont le mandat a été prolongé 8 fois pendant la période de la guerre civile jusqu'en 1992. Et je vais resserrer le propos autour de ce questionnement. Alors, j'avais intitulé l'intervention d'un tamdid à l'autre, tamdid étant le terme arabe pour parler d'une prorogation, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'histoire du Parlement libanais. Vous avez cette grande prorogation 8 fois de suite pendant la guerre civile, et vous avez eu une prorogation très récente de 2013 à 2018. Dans le cours de tous les débats politiques sur la justification, la justesse de la prorogation récente, il y a eu très peu de références qui ont été faites à la prorogation de la guerre civile, de manière assez surprenante. Vous avez même des anciens députés, voire des députés qui sont toujours là, qui avaient déjà été élus en 1972, qui se sont prononcés contre la prorogation du mandat alors qu'ils s'étaient en 2013, alors qu'ils s'étaient prononcés pour en 1976. Et il y a eu une absence totale de profondeur historique autour de cette question qui en soi est révélatrice justement de l'état de l'institution parlementaire aujourd'hui au Liban. On a peu de profondeur historique, on n'a plus d'archives, à tel point que l'institution parlementaire est amenée souvent à demander à d'anciens parlementaires leurs archives pour avoir un fonds donné. On m'a raconté notamment cette histoire à propos tout simplement du journal officiel. Le Parlement, au milieu des années 90 et jusqu'aux années 2000, n'avait pas tous les numéros du journal officiel et a été obligé d'aller les redemander à un député connu pour être particulièrement juriste. Donc, dans ce Parlement, aujourd'hui, il n'y a pas du tout de conscience, pas du tout de travail historique, et pas du tout conscience d'un moment particulier, qui est un moment qu'on a retrouvé, en fait, à l'échelle du Moyen-Orient et qui a été globalement oublié, qui est un moment parlementaire entre les années 50 et 70, jusqu'à l'avènement des régimes autoritaires qu'on a longuement étudié ces dernières années. Dans ce cadre, le Parlement dont je vais vous parler, élu en 1972, est un petit peu la queue de comète de ce phénomène, où il y a eu une parlementarisation assez notable dans la région et qu'on a plutôt effacée. On l'a plutôt effacée notamment dans toutes les études qui ont été faites du Parlement, parce que tout ce qui a été écrit sur le Parlement libanais jusque dans les années 90 est majoritairement basé sur une grille de lecture clientéliste. On a 99 députés qui sont élus dont on va décrire avant tout l'élection. Et l'élection libanaise est un très grand barnum où on va aller chercher l'électeur depuis sa maison jusqu'au bureau de vote, avec tout un système de distribution clientéliste extrêmement sophistiqué, qui a été très très longuement décrit dans les travaux anthropologiques sur le Liban. L'envers de ça, c'est évidemment que, en parlant de ces individus que sont les députés, de leur élection et du clientélisme, on parle assez peu de l'institution et on sous-entend la plupart du temps, voire on l'écrit clairement, que dans tout ça, l'institution parlementaire est totalement négligeable. C'est le lieu où officiellement se rencontrent des gens et des députés qui ont avant tout été élus selon des logiques clientélistes et sont amenés à redistribuer selon de mêmes logiques clientélistes. L'institution en elle-même ne fait pas question dans les années 70. Elle n'est pas mise en question d'une manière un petit peu étrange, dans le sens où on sous-entend que finalement, comme il y aurait ce clientélisme, naturellement, l'institution n'a pas lieu d'être. En réalité, il y a eu une vraie décision politique dans les années 50-60 au Liban de marginaliser ce Parlement, ce qui correspond à des camps politiques donnés. Je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu une volonté d'empêcher justement ce Parlement de prendre son essor. Donc en 1972, on est sur un Parlement humainement et matériellement assez pauvre. Il y a à peine 100 personnes qui y travaillent, les députés n'ont pas de bureau, la compétence des gens qui y travaillent est souvent interrogée, et les compétences en général sont inégales et incertaines. On ne sait pas trop qui fait quoi. Par exemple, on peut se retrouver avec un organigramme où vous avez le fils d'un des députés qui est sur le papier secrétaire général, dont on va vous dire, mais en réalité, il n'était rien du tout. La vraie personne, c'est tel chef de service, qui, lui, était réellement la personne qui se chargeait de la logistique dans les années 70. Donc, on a un flou institutionnel assez fort, qui laisse de côté un phénomène assez important pour le cœur de mon propos, c'est que, en 1972 et jusqu'à l'éclatement de la guerre civile en 1975, le Parlement est en train de s'institutionnaliser en réalité. Vous avez un nouveau président qui arrive, qui a une formation juridique dans une des plus grandes universités francophones du Liban, qui recrute certains de ses camarades qui ont tous un niveau licence ou master en droit, qui organise des concours et rationalise le recrutement, qui lance une revue du Parlement, etc., etc. On a plein de petits signes qui tendent à laisser penser qu'on a une institutionnalisation du Parlement. Institutionnalisation qu'on a aujourd'hui complètement oubliée pour une raison très simple, c'est que la guerre civile éclate en 1975. Pendant cette guerre civile, le Parlement va suivre une trajectoire assez particulière. Institution extrêmement critiquée au début de la guerre et dans tous les débats politiques des années 70, elle est rapidement mise sur la touche. Et pour beaucoup de commentateurs, on la garde juste pour deux raisons. Pour élire les présidents de la République, parce qu'il faut passer par le Parlement, ou pour garder des privilèges pour les députés, notamment des privilèges liés à leur usage de billets d'avion gratuits sur la compagnie nationale. Donc, en apparence, le Parlement a une présence tout à fait résiduelle. D'autant plus que dès le début des combats, donc en avril 1975, assez rapidement, les séances parlementaires deviennent houleuses, à tel point que le président du Parlement ne cherche à les empêcher et a recours pour ça au défaut de quorum. Et le bâtiment du Parlement va rapidement être visé au bout de quelques mois. S'ensuit ensuite, je retrace à gros traits, et ensuite je vais insister sur un aspect qui m'intéresse particulièrement, s'ensuit ensuite une marginalisation des usages qui donnaient une place au Parlement et aux parlementaires, notamment le fait que les nouveaux gouvernements qui émergent lors de la première reconstruction du Liban en 1976-78 sont des gouvernements qui ne sont absolument pas parlementaires. D'habitude, la formation d'un gouvernement au Liban, c'est des semaines de consultation où on reçoit chacun des parlementaires et chacun des blocs pour essayer de savoir quel équilibre entre régions, entre confessions, entre partis politiques on va avoir au sein d'un gouvernement. Là, ça n'a pas du tout lieu. Et le Parlement, jusqu'au milieu des années 80, est totalement marginalisé, jusqu'à ce que le président du Parlement, pardon, soit absent des grandes conférences de paix au milieu des années 80. Passé cette première partie où le Parlement est assez marginalisé, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Il se passe un retour sur l'institution. Vous avez certains des acteurs et des parlementaires qui vont investir l'institution comme une ressource nouvelle dont ils ont besoin eux personnellement et dont ils ont besoin aussi collectivement. Et vous allez avoir tout un investissement autour du possible retour de l'institution parlementaire. Alors, investissement qui se voit de manière très tangible par la construction d'une résidence pour le président du Parlement. Le président du Parlement, dans les trois présidences libanaises, était le seul à ne pas avoir une grande résidence. Donc, signe qu'on cherche à lui redonner une importance. En 1986, on commence à recruter à nouveau des fonctionnaires. Et dans cette période, le Parlement, qui avait adopté un siège provisoire, commence à être un lieu de rencontre assez utile pour tous les leaders politiques, les leaders syndicaux, et c'est devant ce siège provisoire, pour des raisons pratiques, c'est en fait un siège situé sur la ligne de démarcation qui permet à des gens de se rencontrer assez facilement des deux côtés de Beyrouth, c'est devant le siège provisoire qu'il commence à y avoir des manifestations. Donc le Parlement commence à émerger comme un nouveau centre qu'on avait un petit peu oublié. Il réémerge aussi pour une raison très simple, c'est que toutes les nouvelles forces qui étaient apparues dans les années 70-80, et qui étaient amenés à balayer notamment l'ancien monde du Liban, commencent à connaître certains problèmes. Et les milices, c'est évidemment des milices dont je parlais, les milices commencent à connaître un certain désamour de la part de la population qui, en retour, se tournent un petit peu plus vers cet ancien monde qu'on avait peut-être un petit peu trop rapidement critiqué au début de la guerre. Alors, là, j'ai retracé à gros traits cet arc un peu narratif du retour un peu étrange de ce Parlement qui se termine avec quelque chose de très notable, c'est que c'est le Parlement qui va signer, en 1989, l'accord de paix au Liban, dit accord de Taif. Tout ça n'est pas vraiment un hasard, mais est le reflet d'un investissement de la part des députés, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans le fait institutionnel. C'est pas seulement le fait mécanique de l'échec d'autres solutions, notamment les solutions miliciennes, c'est aussi le fait du sens très aigu du placement des députés qui, au long cours, vont réussir à retrouver une place alors qu'on les voyait totalement marginalisés. Donc, les députés vont investir l'institution et faire émerger l'institution sous trois axes. D'abord, faire émerger l'institution comme le lieu d'un héritage politique de long terme du Liban post-indépendance qui représente un retour à un certain ordre social qui avait beau être critiqué, ça représente un ordre social. C'est aussi le symbole très parlementaire d'un espace de discussion. C'est justement pour éviter que le Parlement éclate et laisse avoir les divisions que le président du Parlement annule certaines séances à intervalles réguliers. Et enfin, troisième chose sur laquelle je vais me concentrer plus particulièrement, le Parlement apparaît comme l'incarnation de ce qu'on a appelé au Liban la légalité. Je passe sur. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le Parlement n'a peut-être pas pour fonction première la fonction législative, on a dans le cas du Parlement libanais un Parlement qui, justement, va se replier sur tout à fait autre chose que cette fonction législative. Alors, je pourrais en parler, je la laisse de côté, mais je ne crois pas que ce soit l'essentiel, en fait, de son travail. On a un Parlement qu'on a, dont on a souligné le rôle dans l'élection de certains présidents de la République, dans le vote de certaines lois, dans l'abrogation de certains accords internationaux. Il se trouve que la principale activité du Parlement pendant cette période de guerre a été d'avoir une activité scolastique. Une activité scolastique qui pourrait s'apparenter à celle d'un Conseil constitutionnel. Le Parlement, pendant 15 ans, va se poser des questions du type « Un président de la République peut-il exercer sans avoir prêté au préalable serment ?» Le calcul du quorum nécessaire à un vote doit-il être fait sur le nombre réel de députés qui siègent ou sur le nombre théorique de députés censés siéger, donc à l'exclusion ou non des députés qui auraient disparu. Un gouvernement peut-il revenir sur sa démission si le décret d'acceptation de cette démission n'a pas été publié? Le Premier ministre peut-il être absent d'une réunion du Conseil des ministres? Le Parlement peut-il voter une réforme constitutionnelle hors du territoire national, etc., etc. Autant de débats scolastiques qui vont exaspérer les commentateurs de la situation libanaise à l'époque, qui vont dire que c'est une perte de temps totale. C'est en réalité le reflet de plusieurs choses. D'abord, le reflet d'un ancrage social de la part des députés, qui sont majoritairement avocats. Tous les grands députés libanais de l'époque sont avocats. On est vraiment sur l'exemple typique d'une... D'ailleurs, la Constitution est issue de la Troisième République française, mais c'est vraiment la République des avocats transposée au cas libanais. À tel point que les députés n'ayant pas de bureau à l'Assemblée, c'est souvent leur bureau d'avocat qui fait office de bureau et de lieu pour les campagnes électorales. Cette activité scolastique, c'est l'occasion précieuse de percevoir les dilemmes pratiques qui se posent pour un Parlement qui cherche à continuer à fonctionner. Alors, deux dilemmes sur lesquels je passe très vite, mais cette idée du défaut de cette idée du quorum, est-ce qu'on doit calculer le quorum sur les 99 députés théoriques ou sur les 89, puis 73, puis 60 députés qui restent? Et est-ce qu'on doit proroger ou non le mandat? La question va se poser de manière très aiguë au sein du Parlement, parce que il va se jouer les contours de ce que peut et va être l'institution parlementaire. En l'occurrence, décider de proroger le mandat du Parlement, ça veut dire acter le fait que la guerre civile est bien installée. Et pour les acteurs, c'est vraiment une problématique qui prend plusieurs mois. Au départ, on se dit qu'on va proroger de 6 mois, puis d'un an, puis de 2 ans, et ça correspond à une évolution de la situation militaire sur le terrain. Donc, toute cette activité scolastique est une source précieuse pour étudier les dilemmes pratiques des acteurs à l'époque. Mais ce n'est pas seulement une source, c'est aussi une ressource qui a été sciemment utilisée, notamment à l'international. À l'international, vous avez la présidence du Parlement qui va sans cesse faire des consultations juridiques auprès de grands juristes français comme Georges Vedel ou Roland Drago, qui reviennent périodiquement dans tous les débats scolastiques libanais. Et tous ces débats sont aussi l'occasion de mobiliser en retour des juristes français autour de la cause de la continuité de l'État au Liban. En retour, pour ces juristes, et même pour l'État français qui parfois on demande l'envoi d'observateurs, par exemple de 2 observateurs du Conseil d'État en 1982 pour une élection présidentielle, c'est un investissement ou c'est un geste qu'on peut faire envers le Liban qui ne coûte pas très cher, qui est avant tout symbolique et qui, à ce titre-là, est moins prenant que d'autres gestes plus politiques. Alors, tout ça fait écho plus largement au fait que tous les acteurs libanais ont cherché un assentiment international et ont cherché à avoir cette légitimation au niveau de l'ONU, au niveau des États. Et vous avez tout un jeu pendant la guerre civile de la part des États souverains consistant à ne pas reconnaître pratiquement ou explicitement les milices, à refuser de rencontrer un chef de milice, à refuser la mise en place de bureaux officiels de représentation des milices à l'étranger, etc. etc. Dans tout ce cadre, le Parlement émerge justement comme un contre-exemple et comme la possibilité de continuer à se mobiliser pour des institutions officielles. Est-ce qu'il me reste 5 minutes ou... Alors, dans ce cadre un petit peu général, dans cette configuration particulière que connaît le Parlement en tant qu'institution et son émergence en tant qu'institution vraiment en grande partie tenue par le niveau international, reste à savoir ce qu'ont fait les députés. Ce dont je vous ai parlé, c'est avant tout le bureau de l'Assemblée qui le fait. C'est le président, c'est quelques conseillers qui ont explicitement cette stratégie d'apparaître à l'international, non seulement en mobilisant ses juristes, mais aussi en profitant de tous les réseaux parlementaires internationaux et francophones. Les députés, quant à eux, vont graduellement endosser aussi ce rôle de gardien de la légalité. Alors, ils ne vont pas l'endosser tout de suite, et ça, c'est quelque chose d'assez notable. Vous avez une grande figure dans la narration de la guerre civile au Liban consistant à dire que ça a été la grande chute des leaders féodaux, des grandes familles qui régnaient sur le Liban depuis le XVIIe ou XVIIIe siècle. C'est partiellement vrai parce qu'on est en présence justement de députés qui sont de fins connaisseurs de la société, de fins politiciens, et qui comprennent pour certains tout de suite comment il va falloir s'adapter. Comment il va falloir s'adapter, notamment par rapport au clientélisme. Le clientélisme ne disparaît pas tout de suite, et même pour certains ne disparaît pas du tout, mais s'adapte dans une forme de clientélisme de guerre assez notable, où il ne s'agit plus tant de distribuer des choses au moment de l'élection, mais d'aller voir ses administrés au moment où il y a eu un bombardement, de faire parvenir des médicaments, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de combat à un endroit, ce qui est une forme d'action difficile à enregistrer, pour le coup, mais qui est pourtant réelle. Quand on regarde les combats au Liban, c'est très sporadique, très limité à certaines régions, et c'est aussi le fait de ces élites qui sont marginalisées, mais qui conservent malgré tout un rôle assez important et une capacité à éviter le pire parfois. C'est un clientélisme aussi qui se fait dorénavant par téléphone et par émissaire. On n'est plus sur des choses assez directes où il va falloir aller dans chaque maison, aller reconnaître chaque personne et donner le prénom de chaque personne et montrer qu'on se rappelle de son problème spécifique. C'est quelque chose qui va passer par l'usage de nouvelles technologies, enfin, à l'époque, comme le téléphone. Donc, le clientélisme ne disparaît pas vraiment. Néanmoins, à un niveau personnel, et sur le long terme de 15 années de guerre, ça devient de plus en plus compliqué pour ces députés de continuer à avoir un rôle qui soit aussi important que celui des institutions miliciennes qui, en même temps, ont tendance à grossir et à couvrir des secteurs, notamment au niveau du social, du médical ou de l'aide juridique aussi que ces députés qui étaient, comme je vous l'ai dit, pour une large partie avocats, pouvaient distribuer. Les députés commencent à avoir du mal à trouver des ressources à distribuer. C'est là où intervient justement ce rôle de gardien de la légalité, qui n'est pas seulement un rôle personnel, puisque justement on a un épuisement des ressources personnelles de chacun de ces députés, mais qui est un rôle collectif. Et ce qui se joue de manière tout à fait étonnante au niveau de ce Parlement, c'est que ces parlementaires qui étaient divisés selon des lignes politiques parfois très clivantes au début de la guerre, se rejoignent sur l'idée qu'il y a besoin d'une institution parlementaire parce que c'est un symbole du Liban d'après et de la possibilité même que le Liban existe. Et d'autre part, pour eux, personnellement, en tant que députés, il commence à y avoir peu d'autres cartes à jouer que celle du gardien de la légalité. Ce que connaissent et ce qu'apprennent à découvrir les députés, c'est leur interdépendance croissante pendant la guerre et l'émergence, en fait, tout simplement, d'un rôle de député moderne. C'est assez paradoxal, mais pour certains, c'est le moment où le rôle du député législateur, qui, justement, est très attaché à la Constitution, très attaché au droit, c'est le seul rôle qu'on puisse jouer à peu près de manière crédible. Alors, tout ça a été oublié aujourd'hui parce que ça se termine un peu brutalement. Ça se termine en apothéose parce que, en 1989, ce sont les députés qui sont convoqués en Arabie Saoudite pour signer et concevoir, quelque chose qui a déjà été largement conçu par ailleurs, un accord de paix qui s'appelle l'accord de Taïf. Mais très rapidement, certains de ces députés qui se sont pris au jeu de vraiment s'imaginer être les gardiens de la légalité. Vous avez encore des blagues aujourd'hui sur le président du Parlement de l'époque qui, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, et c'est assez réel, cite des articles de la Constitution. C'est vraiment un langage du politique qu'ils finissent tous par prendre au sérieux. Le président élu en 1989 et très rapidement assassiné, René Mouawad, par exemple, est un président qui est une figure parlementaire qui se prend au jeu de l'institution de manière extrêmement forte et pendant les quelques 15 jours où il va être président, n'arrête pas de surjouer le rôle de président et de montrer que les institutions doivent exister à travers leurs protocoles, à travers leur formalisme, à travers tout un tas de petits détails qui, à cette époque-là, n'en sont plus. Il est assassiné très vite en 1989, probablement aussi, au-delà des grands enjeux politiques et géopolitiques de la région, pour ce fait-là, c'est qu'on est tout à fait au courant qu'il va prendre un petit peu trop au sérieux son rôle à un moment où les Syriens essayent justement d'avoir la main sur le Liban. Et deuxième temps de cette marginalisation de ce Parlement de gardien de la légalité, c'est 1992. Le Parlement avait été renouvelé une huitième fois jusqu'en 1994. Soudainement, vous allez avoir une nomination de certains leaders miliciens au sein du Parlement. Et là, on rentre dans une toute autre configuration où l'institution parlementaire change. Son président va rapidement changer pour justement voir l'élection de Nabi Berri, qui est encore aujourd'hui président du Parlement. Et se termine en fait cette parenthèse un petit peu étrange de l'histoire du Parlement libanais, qui encore aujourd'hui, chez beaucoup de députés, suscite une très étrange nostalgie. On pourrait penser que, étant associé à la période de la guerre civile, ce serait une période dont ils n'ont pas envie de parler. Et au contraire, c'est la période où ils ont vécu à plein ce que pouvait être le rôle de député. Voilà, je m'arrête là.
Pierre, pour cette présentation. Alors, si vous voulez bien, Nicolas Tardy.
Donc, je vous présente tout de suite. Vous êtes doctorant en sociologie à l'Université Paris-Nanterre. Je vous donne la parole tout de suite, et puis après, si Alice, tu veux bien discuter les deux papiers, et puis on ouvre le débat à la salle, et en attendant que la troisième intervenant arrive après.
Merci. Oui, du coup, doctorat en sciences politiques, sociologie politique, mais c'est pas gênant. En tout cas, je tiens vraiment à remercier les organisateurs de cet événement qui permettent aussi, du coup, à de jeunes doctorants de présenter un début de thèse, et je pense que c'est quelque chose d'important, et en tout cas c'est des moments qui permettent aussi de faire le point pour le doctorant, et c'est quelque chose vraiment dont on doit vous remercier, je pense. Je suis d'autant plus content de travailler sur ce panel-là, qui a priori, en tout cas je crois on verra dans la discussion, mais revient à étudier des configurations parlementaires dans lesquelles le Parlement est cadenassé et contrôlé, et je vais essayer du coup de présenter une configuration un peu particulière, qui est celle du Second Empire français, donc le corps législatif du Second Empire, 1852-1870. Donc communication que j'ai intitulée « Quand l'Assemblée était un domestique d'État, quelle place pour le corps législatif sous le Second Empire ?» Donc j'ai utilisé le terme de « domestique » en référence au poète Victor Hugo, qui, quand même victime par exil de l'Empire, va essayer en tout cas de décrire la place occupée par le corps législatif sous le Second Empire, et c'est vrai que ça questionne le politiste. Donc je cite le poète. « Il y a donc dans la boutique où se fabriquent les lois et les budgets un maître de la maison, le Conseil d'État, et un domestique, le corps législatif. » Et c'est vrai, comparable en cela à d'autres régimes oligarchiques, le Second Empire ne supprime ni l'institution parlementaire, ni l'élection de ses députés au suffrage universel. Et cependant, l'organisation de la Chambre bloque complètement toutes les transactions possibles entre les parlementaires par des mécanismes de contrôle, des pratiques et de limitation des pouvoirs pour éviter finalement toute contestation de l'ordre établi. Et donc l'enjeu de l'étude repose sur cette analyse d'une institution qui a ses règles spécifiques dans laquelle des députés sont assignés à jouer le simple rôle de législateur. Alors, pour commencer, le cadre de l'analyse et de la configuration qui est, à mon avis, la lutte contre le parlementarisme. Puisqu'en effet, le parlementarisme de 1848, qui est employé par l'empereur et tous les dignitaires du régime, au sens éminemment péjoratif, est associé à l'instabilité révolutionnaire de la Seconde République. Donc, mais il ne s'agit pas d'un rejet de la nature même du parlementarisme ou de toute forme de représentation, mais plutôt d'une critique qui est ciblée sur des parlementaires républicains et des abus ou lacunes d'un système dont le fonctionnement doit être rendu beaucoup plus performant. Et il est évident que cette critique du parlementarisme n'est absolument pas nouvelle, notamment quand on pense aux critiques sur les ventrus portées contre les députés de la Révolution française ou de la Restauration. Mais en tout cas, ici, elle est un élément marquant de la configuration, et on le retrouve notamment dans les archives, dans une intervention d'un ministre d'État, Rouher, qui, devant les parlementaires, en 1866, va tenir ce discours, donc je le cite, « Le gouvernement parlementaire est un habit flétri, usé et suranné. Il ne représente pas le progrès. Il faut chercher le progrès dans les éléments nouveaux, et l'organisation actuelle est un progrès sur le passé. » Autrement dit, le passé incarné par le parlementarisme est un échec, l'Empire est l'avenir, et le corps législatif doit prendre cette place dans ce nouvel ordre politique. Et dès lors, dans cette configuration un peu particulière, dont nous proposons de réaliser l'étude des conditions à la fois symboliques et pratiques du travail d'Assemblée, en se questionnant dans quelle mesure ces députés, qui sont quand même élus au suffrage universel direct, sont domestiqués, autrement dit, quelle place pour le Parlement et ses agents dans une conjoncture de lutte contre le parlementarisme. Et premier point, d'abord, donc, une analyse constitutionnelle et positionnelle sur la limitation des pouvoirs parlementaires. Et l'appréciation est plutôt simple à réaliser, puisque le corps législatif est imaginé comme un valet du pouvoir exécutif, comme le simple rouage, finalement, d'un dispositif d'État. Et en effet, selon la Constitution, l'empereur gouverne au moyen des ministres, du Sénat, du Conseil d'État et du corps législatif, et le tout, évidemment, par ordre d'importance. Les députés sont donc les troisièmes acteurs du pouvoir législatif de l'Empire. Ils peuvent discuter et voter les projets de loi ou l'impôt. Néanmoins, et c'est fondamental, la loi ne peut émaner que de l'empereur par l'intermédiaire de projets de loi, selon l'article 8 de la Constitution, où l'empereur est le seul à l'initiative des lois. Une fois ces projets de loi impériaux, qui sont imprimés, distribués aux membres du corps législatif, aux députés, les discussions sont mises à l'ordre du jour de commission parlementaire qui est chargée d'effectuer un rapport et de déposer l'ensemble des amendements sur la loi, puisque aucun amendement ne peut être déposé en séance plénière publique. Et donc ces amendements, une fois discutés en commission, sont envoyés pour vérification au Conseil d'État. S'ils ne sont pas validés, toute discussion à ce sujet sera considérée comme non advenue et l'amendement est tout simplement rejeté. Si l'amendement est adopté par le Conseil d'État, il peut être présenté en séance publique et soumis au vote. Donc on le voit assez rapidement, mais le choix est assez simple entre une validation ou un rejet total d'un texte. Et de ce fait, la décision de l'Assemblée législative ne devient qu'un simple avis consultatif par l'intermédiaire d'un vote sans débat. Pour contrôler le Parlement, également dans la Constitution, outre la limitation des pouvoirs parlementaires, un mécanisme quand même important, c'est de réduire l'accès à une quantité restreinte d'individus à la fonction législative. On va limiter ainsi la capacité d'une institution à agir, et on le repère assez facilement, parce que la législature 1852-1857 détient quand même le record du plus faible nombre de parlementaires au sein d'une assemblée législative française, avec à peine 261 membres, contre 761 par exemple en 1849 ou 577 aujourd'hui.
Ce faible nombre de députés est justifié par Louis-Napoléon Bonaparte de la sorte. Je le cite aussi. C'est là une première garantie du calme des délibérations, car trop souvent on a vu dans les assemblées la mobilité et l'ardeur des passions croître en raison du nombre. Ainsi, les causes d'agitation stériles pourront être supprimées. Et donc Louis-Napoléon justifie cette mise au pas de ses élus qui doivent répondre à leur seule fonction qui est établie par la Constitution et divise ainsi l'ordre établi entre les porteurs d'une modernité efficace pour agir et changer les pratiques anciennes face à des acteurs politiques présentés comme responsables d'un blocage de l'action de l'État. Alors là, évidemment, ce débat interpelle par son actualité, son homologie avec le présent, mais il interroge avant tout un mécanisme de construction symbolique de lutte antiparlementaire où le passé est associé à la paralysie de l'activité et le présent à l'efficience du débat parlementaire. Et donc, évidemment, la réduction du nombre de députés prend pleinement sa place. Donc, face à ces échecs du prétendu du parlementarisme, il est important, au-delà de la Constitution, de s'intéresser à la manière dont on va assurer la fidélité des députés. Et notamment, une des premières manières de s'assurer de cette fidélité ou de mettre en conformité, comme le dirait du coup Bernard Lacroix et Jacques Lagroix, c'est l'obligation pour tous les parlementaires de devoir prêter serment. Donc je prête serment à la Constitution et à l'Empereur. Ils doivent prêter ce serment dans les 15 jours suivant leur élection, sous peine de devoir démissionner. Et il est possible d'effectuer ce serment à différents moments, mais un moment, le plus solennel que j'ai retenu en tout cas, parce qu'il dit quelque chose aussi sur aujourd'hui ce qui se fait sur la pratique du Congrès parlementaire, mais en tout cas, un premier moment important, le plus solennel, a lieu au Palais des Tuileries, où chaque session parlementaire, chaque année, l'empereur réunit les sénateurs et les membres du corps législatif au Palais des Tuileries, fait un grand discours, et ce cérémonial d'ouverture des sessions parlementaires fonctionne comme une machinerie politique, comme un instrument de domination impériale qui participe au travail de légitimation de Napoléon III comme un chef charismatique, si je reprends du coup ce type de domination pensé par Max Weber, une domination qui s'acquiert et ne se conserve qu'en faisant la preuve de ses forces dans la vie. Et par l'intermédiaire de ces cérémonies d'ouverture, Louis-Napoléon Bonaparte fait preuve de sa maîtrise du jeu et de sa temporalité politique, où il invite l'ensemble des membres du Sénat et du corps législatif à se réunir dès le lendemain pour commencer leurs travaux et donc à prêter serment. Par conséquent, qu'il s'agisse des règles constitutionnelles ou de cette maîtrise de la fidélité des députés, comment finalement essayer de mettre un petit peu de cohérence dans tout ça pour l'analyse en dépassant finalement cette seule configuration-là du Second Empire? Peut-être un élément de réponse qui permet, à mon avis, de questionner ces différentes questions, c'est celle de la représentation politique. Et en effet, deux institutions sous le Second Empire, donc le corps législatif et l'empereur, sont légitimées par le même mode de désignation, le suffrage électoral. Puisque, je le rappelle, Louis-Napoléon Bonaparte est le premier président de la République élu au suffrage universel direct en 1848 et plébiscité deux fois en 1851 et en 1852 comme empereur. Et s'installe alors une forme de concurrence politique pour la représentation, ou plutôt pour le monopole de la représentation légitime d'un groupe mystifié d'électeurs identifié comme étant la nation souveraine. Et ce lien scellé à l'origine entre l'empereur et les électeurs ne doit être revendiqué par personne, et encore moins par les députés. Et on le voit sur plusieurs aspects, et notamment sur la nomination même du Parlement, puisque le Parlement, dans l'histoire française, a été successivement nommé Assemblée nationale législative, Conseil des 500, Chambre des députés des départements, Chambre des représentants. Et bien, sous le Second Empire, comme sous le Consulat d'ailleurs, le Parlement devient le corps législatif. Les députés, donc, ne sont plus liés à une assemblée souveraine, en tout cas qui pourrait représenter la communauté politique. Ils sont désormais membres d'un corps du pouvoir impérial, des éléments qui structurent l'ordre établi, des piliers institutionnels, et non plus donc une chambre indépendante composée d'élus de la nation. Autre aspect sur ce contrôle de la représentation, cette séquence historique est marquée par la fin de la tribune parlementaire. Tribune située juste en dessous du bureau, normalement, du président de l'Assemblée, qui va être remplacée par un bureau où vont se tenir l'ensemble des commissaires du gouvernement. Et ainsi, symboliquement, en substituant l'action à la parole, le nouveau régime met fin symboliquement aux grandes envolées lyriques, aux débats passionnés, aux attaques ad nominem, bon, finalement à tout ce qui pourrait constituer l'art oratoire et les joutes verbales parlementaires. Et je retrouvais du coup dès 1843 Louis-Napoléon Bonaparte qui parlait de cette tribune. Il parlait ainsi de cette tribune, donc je le cite. « Avec une tribune, les avocats seuls remportent en général tous les triomphes. Sans tribune, tout homme de bon sens peut exercer l'influence que donne l'expression d'un sentiment vrai, d'une idée juste, dépouillée de toute ostentation et de tout luxe de parole. Et de même, pour étouffer du coup cette parole, dès 1852, le public dans l'hémicycle est interdit et les comptes rendus intégraux parlementaires sont supprimés puisque seul un compte rendu officiel de type analytique peut être utilisé par les journaux. Donc nous le percevons, cette compétition a priori qui pourrait exister symbolique entre l'empereur et les députés, qui disposent tous deux symboliquement d'un mandat du peuple, une forme de délégation légale similaire. Toutefois, le jeu entre ces deux agents reste complètement inégal, puisque l'un, le chef d'État, dispose d'une forme d'intemporalité dans sa délégation et, de surcroît, va jusqu'à contrôler les règles d'entrée des députés au sein du corps législatif, et notamment par un mécanisme très puissant et fort, qui est celui de la candidature officielle, travaillée notamment par Christophe Voilliot ou Patrick Lagouët. Candidature officielle qui revient finalement pour le pouvoir exécutif à désigner sur le territoire des candidats pour le représenter et qui du coup dispose d'un transfert d'un capital politique nécessaire à leur élection puisque après tout un armada politique est mis en place pour permettre l'élection de ces députés, autrement dit de ces candidats officiels. Et la candidature officielle va modifier profondément le rapport entretenu entre les députés et le pouvoir exécutif. Certes, le député est élu, mais il est élu au nom de l'empereur comme le candidat du gouvernement. Il sera donc un candidat qui, a priori, ne remettra pas en cause le bon fonctionnement des institutions et va assurer la stabilité politique de l'Empire. Et là, je peux reprendre finalement ce que disaient Bourdieu et de Saint-Martin dans la Sainte Famille, mais l'institution investit ceux qui ont investi dans l'institution et qui, a priori, ne remettront pas en cause cette institution. Et tous les candidats officiels élus, qui représentent quand même 506 députés sur 613 sur l'ensemble de la période, tous ces députés sont donc le produit d'une élection qui est faite par le peuple, mais pour représenter l'empereur. Par conséquent, si la lutte contre le pouvoir parlementaire est pensée comme un mode de fonctionnement institutionnel, nous avons souhaité en montrer en tout cas les aspects les plus notables, il y en aurait d'autres à présenter, mais la place occupée par le corps législatif relève davantage de l'inféodation symbolique que de la liberté d'action pour la fabrique des lois. Et en limitant les pouvoirs, en assurant la fidélité, le tout, en tout cas ce que je propose, mais le tout pour le contrôle du monopole de la représentation politique, les députés ne sont finalement présentés que comme des agents de l'Empire, des agents d'État. Bon, mais toutefois, et alors du coup, c'est à constituer ma deuxième partie du texte, mais que je vais résumer, parce que j'ai souhaité plutôt mettre l'accent sur l'analyse de cette configuration, mais il faut dépasser un petit peu cette configuration pour s'intéresser dans quelle mesure ces agents dans l'institution peuvent exister et peuvent finalement agir au quotidien comme des députés. Et donc je vais résumer et aller assez vite, mais de la sorte, on peut percevoir, à s'y méprendre, hein, que l'affaiblissement des pouvoirs parlementaires peut être aussi le fait des parlementaires eux-mêmes. Et paradoxalement, la critique à la fois formelle, structurelle du régime parlementaire est également portée par les députés eux-mêmes. Autrement dit, alors que l'on pourrait considérer, on le retrouve parfois dans le texte de Caron sur l'antiparlementarisme, mais on pourrait considérer l'antiparlementarisme comme la lutte contre les députés, autrement dit le pouvoir exécutif contre le pouvoir législatif. Ici, il se construit en euphonie complète entre ces deux institutions, il est complètement partagé, et plus encore, le fait qu'il soit partagé exprime presque la condition sine qua non de la stabilité d'un tel exercice du pouvoir. Il est le gage de cette légitimité d'une pensée qui est objectivée en fonctionnement d'État. Les députés, donc, vont consentir et même renforcer localement la domination et la consolidation de l'ordre politique et social. Et si je reprends la question de la représentation, en représentant comme des candidats officiels, du coup, l'empereur dans les départements, ces députés vont prolonger les contours de cette domination, faisant d'eux finalement des agents de domination dominés, comme finalement peut parler Jean-Baptiste Lagavre sur les communicants politiques, enfin, la communication politique. Et certains vont même parler dans cette configuration de campagnocratie. Et de plus, donc, ces députés, bien qu'ils élargissent et renforcent la domination, ils vont toutefois devenir des parlementaires. Pour beaucoup, puisque c'est la première fois qu'ils deviennent députés, tous ces candidats officiels, en tout cas, c'est à peu près 80% de ces candidats officiels, sont des nouveaux entrants dans le jeu politique. Et ces députés, donc, vont quand même développer un éthos parlementaire en associant à la fois, du coup, de nouveaux éléments, c'est-à-dire la fidélité, le désintéressement, la bonne conduite, la courtoisie, le calme, l'urbanité. Bref, autant d'éléments qui se veulent constitutifs d'une rupture avec un passé. mais aussi le travail législatif quotidien des députés va développer finalement ce que Bourdieu pourrait appeler une tendance à agir d'une manière régulière, un habitus, hein, un apprentissage à la prise de parole notamment, ou au travail législatif quotidien. Et dès lors, on le pressent un petit peu, mais le fait que ces députés qui seront réélus, toutefois aussi comme des candidats officiels, et l'augmentation du temps passé dans la Chambre, va permettre un apprentissage du travail parlementaire et va se développer du coup un savoir-faire, un savoir-être acquis qui deviennent des éléments constitutifs d'une forme de professionnalisation politique, ou pour parler plus justement de spécialisation de l'activité parlementaire, et qui ouvre du coup par ce processus un espace des possibles. Un espace des possibles pour contester l'ordre établi, pour essayer en tout cas de, sur quelques petits éléments, quelques petits points, de dépasser et de contrer un petit peu les projets gouvernementaux. Et en conséquence de quoi, cette contribution à l'étude d'une configuration qui cadenasse le Parlement témoigne finalement de tout son paradoxe, où l'existence, ou dans l'existence même de cette relation de domination, il puisse exister aussi une issue à son propre dépassement.
Voilà. Merci.
Est-ce que vous m'entendez ? Ouais. D'abord, je voulais remercier les organisateurs pour m'avoir invité à cette discussion et à cette conférence qui est extrêmement intéressante, et d'autant plus que je ne me sens pas très compétente en fait pour être ici, puisqu'en fait je pense que la raison pour laquelle j'ai été invitée, c'est que j'ai travaillé il y a plus de 10 ans, on va dire, un petit peu sur les députés en Turquie. J'avais fait un projet en collaboration sur le métier de député en Turquie, et donc avec Gilles Dorensoro, à l'époque, on avait travaillé sur le métier de député, et en particulier, moi, j'avais travaillé sur les rôles et les orientations de rôle des députés, mais c'était un travail qui est ancien et qui restait un petit peu, un one shot, on va dire. Mais bon, disons que ça continue, c'est des choses qui continuent à m'intéresser beaucoup. C'est pour ça que je suis très contente d'être ici. C'est pour ça aussi que je ne suis pas complètement sûre de pouvoir dire des choses très pertinentes, mais je vais quand même essayer. Alors, le second point, c'est que je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit tout à l'heure Rémi Lefebvre, hein, au sujet du second panel, hein, sur le Parlement au-delà de la loi. Là, le panel s'intitule entre parenthèses, parlementarisation, l'institution dans la tourmente. Donc là encore, on n'est pas sur le peut-être, avec un point d'interrogation, cœur de l'activité parlementaire ou de la fonction parlementaire de faire la loi, mais on est sur des situations limites, sur des situations, des configurations, hein, comme vous l'avez très bien dit, en mouvement, qui ont des impacts sur le fonctionnement, le rôle des parlements, et c'est là encore un petit peu analyser le Parlement par des situations, on va dire, un peu limites, de reconfiguration, en fait. De changement. Je note que vous n'avez pas intitulé le panel « L'institution en crise ». Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, hein, c'est une question aux organisateurs, je me la suis posée. En tout cas, donc on est dans des phénomènes de reconfiguration, de redéfinition des rôles, des fonctions du Parlement et des députés. Mon voisin parlait d'une situation où c'était cadenassé. Alors, c'est pas le cas dans tous les papiers, hein. Il y a aussi celui qui ne sera pas présenté, donc sur le Gabon. Mais disons que ce sont des situations où se rejouent des équilibres, alors dans différentes, sous différentes formes. Et donc, je pense que la question principale de ce panel, c'est celle du changement, en fait. C'est celle de la diachronie. C'est celle du changement des équilibres, qui sont notamment des changements, pas dans tous les cas, mais on va dire liés à des reconfigurations politiques plus larges. On va dire des changements d'abord externes, hein, d'abord extérieurs au Parlement, et qui impactent, bien sûr, le fonctionnement de ces... de Forge sur les acteurs, les différents acteurs et la dimension internationale d'une réinstitutionnalisation. Voilà, donc une des questions que je vais vous poser à chacun, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler de désinstitutionnalisation, réinstitutionnalisation, est-ce que ça fait sens en fait? Et là, je vais me raccrocher à ce qu'a dit tout à l'heure aussi Rémi Lefebvre sur la question justement de la pertinence des outils de la sociologie des institutions, en fait, pour penser ces situations, ces reconfigurations. Mais avant parce que finalement, on est quand même sur des situations dans lesquelles, en tout cas dans les papiers, hein, normalement, si vous voulez, le changement, comment je vais dire dans l'autre sens. Il me semble que pour penser ces périodes, vous le faites tous, mais de manière différente et pas toujours de manière très systématique. Mais il me semble que vous avez tous une réflexion sur justement les usages en fait que font les acteurs de ces institutions. Donc il me semble que cette question justement qu'on a déjà évoquée des règles, des usages des règles, qui a été beaucoup travaillée dans la sociologie des institutions, elle est intéressante, elle est importante, la manière dont sont investies ces institutions dans des contextes de changement, de mouvement, et qu'on peut décliner sous différentes formes. Et là, ce qui me semble intéressant, c'est que justement, on sort de l'idée, peut-être un peu simpliste, mais déjà depuis ce matin, hein, d'une fonction première, en fait, des parlements. On sort d'une idée normative, on va dire, de hiérarchisation de voilà, la fonction du Parlement pour s'intéresser vraiment aux usages, aux manières dont les gens investissent les rôles, à ce que l'institution apporte aussi. Et donc là, on a des... J'aime pas appeler ça fonction, justement, mais on a différentes facettes, hein, je crois, de ces rôles. Il y a évidemment la dimension du législateur. Il y a, on l'a vu aussi ce matin, le contrôle parlementaire. Mais il y a aussi la dimension dont on a parlé de la représentation. Représentation de qui d'ailleurs? De la nation, de la circonscription. Ça change. On a aussi des usages qui ne sont pas du tout prévus, en fait, notamment dans le cas du Liban, où finalement, il y a la dimension clientélaire qui l'est peut-être un peu plus, mais des usages... pas anticipé. Donc on a vraiment des usages très très pluriels et on a des prescriptions de rôles aussi qui changent. C'est-à-dire que dans cette analyse des rôles, de la manière dont ils sont investis, il faut voir que les prescriptions institutionnelles, les prescriptions de différents acteurs, que formulent différents acteurs, des rôles parlementaires changent. Avec des effets, bien sûr, sur les possibilités d'action des uns et des autres, et avec des légitimités différentielles, en fait, de la manière dont sont investis ces rôles. Alors, autre chose qui m'a beaucoup intéressée dans tous ces papiers, c'est la dialectique, en fait, quand on part de cette question de la manière dont les rôles parlementaires sont investis, la dialectique entre des investissements individuels qui sont assez peu travaillés en fait dans les papiers, mais c'était pas non plus vraiment la question, mais ils apparaissent ici et là, et puis des choses plus collectives justement, et des configurations dans lesquelles se créent en fait ou pas des collectifs ou des formes d'investissement collectif qui vont justement transformer l'institution elle-même. On le voit par exemple sur le Liban. Et finalement, on est du coup par rapport à cette question des acteurs, des usages, sur des situations dans lesquelles finalement la question du changement, qui dans la sociologie des institutions se fait souvent par renouvellement du personnel finalement, ou dans des situations, on va dire, classiques de stabilité, bon, on a une élection, le personnel change, les rôles sont investis différemment, etc. Là, c'est pas vraiment la dynamique principale du changement. Ça peut l'être aussi, c'est une question que je voulais vous poser d'ailleurs à tous, sur la question du changement des personnels qui peut être aussi une chose intéressante, mais on voit dans la situation libanaise qu'on a le même personnel pendant 20 ans, enfin sauf ceux qui meurent entre-temps. Sur le Second Empire aussi, on a une stabilité manifestement du personnel puisqu'ils sont renouvelés, hein, d'après ce que j'ai compris, alors avec quelques exceptions, ils ne sont pas tous renouvelés, etc. Mais, donc voilà, on a vraiment des dynamiques de changement extrêmement, extrêmement spécifiques. Et puis bon, le papier sur la Tunisie, c'est sur une période un peu plus courte où là, la question du personnel se pose pas de la même manière. Donc voilà, autre chose transversale qui me semble intéressante peut-être à creuser, c'est que dans cette question des usages, je trouve que apparaît dans les papiers, mais de manière un petit peu ponctuelle, la question de la matérialité du quotidien, du travail quotidien, et qui me semble une question vraiment importante. Et donc, je vous encouragerai à nous en dire peut-être un petit peu plus sur cette dimension-là, Et autre question transversale, c'est celle des sources, en fait. Des sources sur lesquelles on peut s'appuyer pour travailler ces questions-là, bah, notamment la question du travail quotidien, qui n'est pas forcément toujours facile à reconstruire, surtout quand c'est a posteriori et que donc on ne peut pas faire d'observation. Du travail quotidien et globalement aussi de la manière dont sont négociés en fait ces changements dans le travail des parlements. Alors pour des choses plus spécifiques sur chaque papier, du coup je vais le faire dans l'ordre d'apparition à l'écran. Donc j'ai beaucoup apprécié les trois vraiment papiers. Je vais me limiter à un ou deux points hein, sur chaque papier parce que j'ai beaucoup de choses, mais ça serait sans doute trop long. Sur le Liban, je me suis quelque chose de très empirique, j'ai pas compris en fait comment à la fin de la période des leaders miliciens avaient été nominés en fait au sein du Parlement. On comprend pas en fait comment ils arrivent là puisque ils ont été reconduit les députés anciens, enfin voilà, donc ça c'est juste un truc empirique que j'ai pas. Une chose qui m'a intéressée sur cette question justement de la dépolitisation, qui est aussi un petit peu transversale hein, à ces trois papiers, c'est que on voit dans le cas libanais et sous le Second Empire et un peu dans le cas tunisien aussi, que finalement tout ce qui est la palabre parlementaire, la possibilité donc de vraiment verbaux et de choses un petit peu musclées, peut poser problème. Et que la dépolitisation, finalement, peut aussi constituer une étape, mais un moment, disons, de refondation et de passage à d'autres types de fonctionnement. Et dans cette perspective-là, sur le Liban, je m'interrogeais, parce que vous en parlez un petit peu dans le papier, sur le rôle des commissions. Il me semble que dans le travail sur les parlements, le rôle des commissions, qui est moins visible, qui est moins public, etc., il a quand même parfois un intérêt assez énorme. Et donc là, en l'occurrence, ça a été réinvesti. Je voulais savoir peut-être comment. L'autre question que je me posais, c'est sur, quand vous parlez justement de cette dimension légale, de porteur de garant de la légalité et des types de débats un peu qui paraissent un petit peu byzantins sur des choses très, très précises, etc., je me demandais dans quelle mesure la sociologie des controverses pouvait être intéressante à utiliser, en fait, à partir de ces dilemmes pratiques, en fait, justement, pour avancer dans la compréhension justement de ce qui est renégocié en fait à travers ces plateformes et ces formes de discussion qui sont spécifiques. Alors là aussi, la dimension internationale me semble intéressante dans ce que vous avez développé, et aussi faire écho au travail sur la Tunisie, parce que finalement cette dimension internationale, à la fois elle est porteuse de légitimité, parce qu'il y a cette légitimité internationale du Parlement qui est globalement quand même garant de la légitimité politique, mais en même temps ce qu'on voit dans le travail sur la Tunisie, c'est que finalement dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il y a aussi des limites en fait à cette ressource de légitimité internationale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser n'importe comment non plus. Je vais y revenir sur la Tunisie. Donc, pour le travail sur le Second Empire, alors moi, j'ai trouvé ça, cette domestication, absolument fascinante. Mais moi, j'avais envie de vous demander de développer, en fait, la deuxième partie, c'est-à-dire la manière dont ces députés vont ensuite, avec le temps. On sent bien que là, il y a une dimension diachronique et qu'on a envie d'aller plus loin, en fait, dans l'histoire, justement. Comment ils vont jouer, en fait, quand même, de leur position pour peut-être négocier des choses. Vous parliez de marge d'action, etc. Et je m'interrogeais justement sur, ceux qui avaient été élus, mais ensuite ne sont pas représentés comme candidats officiels, donc il n'y en a pas beaucoup, mais pourquoi, comment. Et puis sur ceux qui sont élus sans être candidats officiels, comment ils sont élus, et est-ce que leur leur positionnement, leur activité comme parlementaire est différente, se distingue des candidats officiels et en quoi? Et est-ce que, finalement, dans ces marges hein, dont vous parlez, qu'est-ce qui fait bouger les choses? Est-ce que c'est des phénomènes d'apprentissage? Est-ce que c'est du sang neuf qui est apporté par ces gens qui ne sont pas des candidats officiels? Est-ce qu'il y a un moment où, finalement, l'antiparlementarisme devient moins oppressant parce que, voilà, le truc est établi et qu'il n'y a plus trop d'enjeux, en fait, et que, donc, peut-être la chape de plomb se relâche? Enfin, voilà. Donc, j'aurais envie vraiment de vous encourager à regarder ces usages, justement. Il y a toujours, hein, vous le dites, le dépassement, mais il y a toujours, la domination n'est jamais totale. Enfin, il y a toujours ces marges et comment ça fonctionne. Parce que finalement, voilà, ils ont quand même une place importante dans la légitimation du régime en province, et sans doute pas seulement en province non plus. Voilà, et les papiers sur l'OP, un peu, effectivement, vous l'avez dit, dans une perspective différente sur l'expertise internationale dans le cas de la Tunisie, donc, qui se situe plus, donc moins dans les legislative studies, je dirais plus dans la question des circulations, des transferts de politique publique, etc. Donc vous l'avez plus situé dans la question de la socio-anthropologie du développement. Moi, je trouvais ça tout à fait fascinant, la manière dont vous étudiez ce bricolage que font ces experts. Vous ne l'avez pas dit à l'oral, mais en fait, il y a les experts qui viennent d'ailleurs, et puis il y a les experts tunisiens, voilà, que vous distinguez bien dans le papier écrit. Et alors, sur cette question, du coup, je m'interrogeais sur... parce que là, ce qui est intéressant, vous ne l'avez pas dit, hein, mais c'est aussi que c'est aussi des novices, hein, un petit peu comme d'ailleurs les députés de la Seconde République... du Second Empire qui débarquent, en fait, et donc qui ont tout à apprendre. Mais là, ces experts, à la fois les Tunisiens et le fameux Étienne là, dont vous nous parlez, qui est français, ce sont d'après ce que j'ai compris, ce sont des novices, en fait. C'est la première fois qu'ils font ça. Donc là aussi, la question de l'apprentissage, des compétences, elle me semble importante. Et je m'interrogeais d'abord, du coup, sur les carrières, en fait, au PNUD, c'est-à-dire, bah, est-ce que eux, les experts en parlementarisme, je sais pas comment dire. Est-ce qu'il y a des carrières d'ascension, et puis à quel poste ils arrivent, ou alors est-ce qu'ils deviennent un jour experts électoraux, enfin, quelles sont les formes de trajectoires qu'on retrouve dans ces organisations-là, parce que finalement on a peu d'experts en fait, enfin, des vrais pros, quoi. Et donc c'est assez paradoxal, du coup, cette professionnalisation sans professionnel. Mais du coup, alors sur la question de la circulation, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc ce bricolage, l'importance en fait de la prise de décision locale et le fait que finalement il n'y a pas un modèle qui est transféré. Alors c'est des choses, alors, je ne sais pas si vous connaissez bien les travaux sur l'européanisation, mais il y a des choses qui vont dans le même sens en fait dans la sociologie des transferts au niveau européen sur l'absence de modèle en fait. C'est-à-dire le fait que c'est dans le transfert lui-même que vont se créer des modèles, d'ailleurs, qui n'en sont pas, parce qu'en fait, c'est des one-shots, c'est-à-dire, en fait, on fait un modèle à chaque transfert, et que le modèle est finalement la résultante du transfert lui-même, et qui n'existe pas en dehors de ça, et qui me semble que c'était intéressant l'expression que vous avez utilisée de répertoire d'expériences légitimes et de bonnes pratiques, parce qu'en fait, c'est des répertoires qui ne sont pas cohérents et qui sont assez variés, en fait, on peut aller puiser, voilà, c'est assez... et donc, c'est plutôt l'idée de modèle et qui du coup, pose question. Et je m'interrogeais sur, du coup, est-ce que... parce que vous contrastez ça, cette ouverture, cette absence de modèle bien défini avec, par exemple, l'expertise électorale, en fait, au niveau international. Je me demandais si c'est parce que l'expertise électorale, c'est quelque chose de peut-être plus ancien, de mieux établi, de plus institutionnalisé, de plus fermé, consolidé. Donc, est-ce que c'est une question de temps, en fait, que ça soit plus, on va dire, cohérent, entre guillemets, ou est-ce que c'est une question de nature? Et je m'interrogeais, en fait, justement sur la spécificité de ça, sur cette expertise parlementaire, par rapport à la sociologie du développement que je connais peu. Hein. Est-ce que c'est spécifique? Enfin, dans quelle mesure ça l'est? Et si ça l'est, comment ça peut s'expliquer, en fait? Et donc par rapport à cette internationale comme mode de légitimation, c'est intéressant parce que finalement quand on voit, donc là encore vous n'avez pas eu le temps de revenir dessus, mais quand on voit comment c'est négocié concrètement entre les différents acteurs, ce qui va être fait, accepté comme type de, d'activité, etc., il y a vraiment une négociation de l'acceptabilité en fait de la chose, c'est-à-dire à la fois il y a une demande d'expertise internationale, mais en même temps il ne faut pas non plus que l'initiative soit laissée à l'organisation internationale. Il y a une espèce de demande de garder l'initiative et de rester maître du processus, et du coup je m'interroge sur la manière dont ce type d'intervention du PNUD est négocié en amont, c'est-à-dire est-ce que ça se fait comme l'intervention, comme l'observation électorale par exemple, où en fait c'est les gouvernements qui vont demander et autoriser une observation électorale en amont, ou enfin comment ça se négocie en fait, dans quel type de configuration. Voilà, je vais m'arrêter là en vous remerciant pour m'avoir écouté jusqu'au bout.
Merci pour toutes ces remarques. Sur deux choses un peu générales, vous disiez au début sur la question de la matérialité et la question des sources. Dans le cas du Parlement libanais, il y a une question de la matérialité qui est posée directement parce qu'en octobre 1975, le Parlement est bombardé, on ne peut plus y accéder. Donc il y a tout un enjeu de trouver un endroit où on va mettre un Parlement provisoire. Ensuite, de savoir combien de temps on va y rester, de savoir comment on le meuble, d'organiser alors qu'il n'y a plus d'amphithéâtre, etc. etc. Donc il y a une grande problématique de la matérialité, où c'est même quasiment pas possible, en fait, dans ce cas-là, de réunir les 99 députés pour une séance. C'est compliqué, d'où le fait qu'on va avoir pour des raisons pratiques, c'est compliqué de les faire venir parce qu'il y a des questions de sécurité. Et puis pour d'autres raisons liées au fait aussi, certains députés commencent à habiter à l'étranger, on finit par faire des séances qui sont justement des séances de commission. Et je pense que ça, c'est lié à la matérialité un peu compliquée du Parlement et aussi à son caractère de symbole dont vous parliez tout à l'heure, que c'est le symbole de la palabre. On se rend compte qu'il y a un gros problème justement à montrer des palabres qui iraient trop loin et qui seraient trop violentes au Liban. Donc on a recours à ces commissions, qui est aussi un moyen de faire travailler le Parlement, qui est censé être ce symbole justement de la parole publique, avec une parole qui n'est plus du tout publique. Mais ça, c'est le seul moyen. Sur la question des sources, c'est évidemment un peu compliqué, d'autant plus que, comme je disais, le Parlement lui-même n'a pas d'archives. Mais il y a cette espèce de chronique constitutionnelle permanente qui est une première source extrêmement développée vraiment de tout le quotidien, de toutes les discussions quotidiennes du Parlement. Et ensuite, comme chaque séance est un enjeu politique, faire en sorte que chaque séance ait lieu, négocier le quorum. Généralement, dans les journaux, on a toute l'information sur qu'est-ce qui s'est passé au niveau du bureau de Parlement. Et la troisième chose, c'est que les parlementaires sont des gens qui adorent parler et qui aiment beaucoup écrire. Donc on a énormément de mozakalat, ou ce jeu des mémoires, où ils racontent justement tous ces jeux qui sont vraiment leur quotidien. C'est toute la question justement de la matérialité des querelles byzantines, c'est leur quotidien politique et c'est le langage commun qu'ils ont qui leur permet de ne pas parler des vrais problèmes aussi. Ça permet vraiment d'éviter tout ça. Alors, sur la nomination des députés, oui, ça j'ai pas bien expliqué dans le texte, c'est en 1992, on décide au niveau du gouvernement que le mandat des parlementaires n'ira pas jusqu'en 1994 et qu'on va nommer 20... Non, c'est censé arriver à 128, je crois, à l'époque. Qu'on va nommer de quoi compléter le Parlement avec, justement, des acteurs qui sont les acteurs miliciens. Donc il y a vraiment...
C'est un complément, en fait.
C'est un complément. En attendant ensuite des élections qui ont lieu assez rapidement. Mais il y a une période de transition où on nomme des gens en attendant de pouvoir organiser des élections. Sur la, La sociologie des controverses, alors je ne l'utilise pas dans ce papier, mais ouais, je l'ai un petit peu en tête, notamment ce qui me semble intéressant, ça me semble intéressant de l'utiliser dans ce cas-là, parce que la socio des controverses, c'est surtout sur des controverses sociotechniques et un langage qui va être plus proche de l'économie, plus proche des sciences dures. Alors que là, on a des controverses qui sont formulées dans un langage du Parlement qui est un langage Troisième République, qui est un langage qui justement a eu tendance à disparaître aujourd'hui. Donc je ne l'ai pas utilisé, mais c'est une suggestion assez utile. Et enfin, sur l'international, comment on l'utilise ? Dans le cas du Parlement libanais, c'est vraiment très formel, justement. C'est un échange de lettres, c'est des visites, c'est les parlementaires libanais qui vont à l'étranger, ou quand on les accueille, on sous-entend que c'est important de les avoir à cette table pour montrer que l'institution continue à fonctionner. Inversement, l'institution parlementaire libanaise reçoit des délégations. Donc il y a tout un... On est vraiment à ce niveau-là, plus au niveau des députés et des liens internationaux des députés que vraiment le personnel. Le personnel et justement toute cette ingénierie internationale, je pense que ça intervient plus à partir des années 90, que ça ne fait pas encore partie du Parlement de 72.
Du coup, je réponds la suite. Bon. Beaucoup de questions, hein, c'est vrai, mais sur la question déjà de la déparlementarisation, de la dépolitisation, là, je crois que justement, la configuration du Second Empire marque le fait d'un processus de parlementarisation et de politisation de toute une série de nouveaux acteurs, dans la mesure où c'est pour le premier mandat politique national, mais je vais y revenir puisque... Du coup, la question, c'est comment analyser ce processus-là et comment analyser les usages et l'investissement des rôles que vous avez pu évoquer. Alors, bon, deux aspects. D'abord, sur le plan méthodologique, l'un des premiers aspects, à mon avis, et je reprends l'analyse portée notamment par Christophe Ledigol et Hervé Faya, une analyse configurationnelle du Parlement, qui revient finalement à décloisonner les études parlementaires en ne s'intéressant pas seulement soit au moment d'élection, donc c'est-à-dire l'avant travail législatif, soit au seul travail législatif, soit du coup à tout ce qui peut constituer le passage de la socialisation au travail parlementaire. Et justement, je crois que dans une situation de surcroît oligarchique, en tout cas compliquée, où le Parlement a du mal à vivre, je crois que le fait de mettre en relation à la fois ce que sont les députés à l'entrée du Parlement, donc ce qu'ils sont à la fois dans leur rapport avec le pouvoir exécutif, le fait d'avoir été candidat officiel ou non, mais aussi le fait de savoir ce qu'ils sont socialement. Et ça joue beaucoup, puisqu'il y a aussi un renouvellement social de ces parlementaires qui, du coup, on élimine complètement les avocats, par exemple, de la Deuxième République, au profit notamment des acteurs économiques de l'Empire qui commencent à émerger, les Schneider et compagnie. Du coup, c'est vraiment une transformation aussi de fond du personnel politique, et qui doit être associé du coup au travail législatif quotidien et comment ces députés qui n'ont pas l'habitude du travail parlementaire peuvent aussi faire la loi et agir au quotidien. Et finalement aussi, du coup, sur un troisième aspect, ce qu'ils font en dehors de l'Assemblée une fois élus. Et tout le travail de socialisation parlementaire, puisqu'ils ne se connaissent pas, pour la plupart, puisqu'ils n'ont jamais été mis en relation. Et ça passe par une chose, un aspect, mais ça peut être le lieu de résidence. Et notamment le fait que sous le Second Empire, beaucoup de parlementaires venant des territoires montent à Paris. Et vont vraiment se loger en plus dans une situation où Paris est en reconstruction avec tous les projets haussmanniens. Du coup, ils se retrouvent à peu près tous dans les mêmes quartiers, soit dans les mêmes hôtels particuliers. Et on peut imaginer, sans avoir la trace, mais en tout cas que ce sont souvent dans ces espaces-là que se joue aussi une socialisation, un travail parlementaire. Et je crois que c'est en décadenassant un petit peu ces études parlementaires, en prenant à la fois en compte l'élection, les conséquences sur le travail législatif et ce qui se fait en dehors, qu'on peut essayer en tout cas d'analyser un processus de parlementarisation qui peut être intéressant. Ensuite, sur le plan empirique, comment travailler du coup ? Alors là, c'est un vrai bricolage, hein, mais je pense comme toute enquête en sciences humaines et sociales, mais qui revient à combiner à la fois de l'archive nationale, qui pour beaucoup, en tout cas sur le début du régime, les fonds ont été brûlés par les présidents de l'Assemblée nationale, en tout cas tous les
Oui, les rapports détaillés ont été brûlés et on retrouve seulement les rapports analytiques. Donc c'est très compliqué, en tout cas, de se baser simplement là-dessus. Mais cependant, et là, ça fera du coup un lien avec ce que disait Éric Lerouge, du coup, au premier panel, mais c'est, il est quand même possible de quantifier par l'archive toute une série d'éléments. Le nombre d'amendements, du coup, déposés, qui sont les parlementaires qui vont amender, dans quelle mesure aussi ils vont pouvoir parler, quelle quantité ils vont pouvoir parler. Et aussi, un autre aspect important, certains ont le droit d'imprimer leur présentation, en tout cas, au cours d'une séance publique. Et c'est un enjeu important aussi de comment on va utiliser un papier qu'on a pu présenter à l'Assemblée nationale, comment on va le présenter aussi à des électeurs pour jouer aussi de ça. Au-delà de l'archive nationale, c'est de l'archive départementale et reconstruire du coup ce travail-là au quotidien des députés, comment ils agissent localement dans leur rapport aussi avec les électeurs. Et tu parlais du coup des mémoires aussi des parlementaires, et c'est vrai, les députés aussi du Second Empire écrivent beaucoup. Et étant donné que souvent l'Empire a constitué pour eux une parenthèse électorale, puisque beaucoup après l'Empire sont de nouveau éliminés complètement du jeu politique et se mettent finalement généralement à écrire pour justifier l'importance de l'Empire face finalement à la Troisième République naissante. Donc je pense que c'est un jeu de bricolage en tout cas qui permet de comprendre ça. Et donc cette analyse processuelle ou configurationnelle du coup du Parlement, je pense, peut permettre du coup de comprendre comment ces députés vont petit à petit, du coup, par la réélection, essayer de s'opposer au gouvernement et aux projets gouvernementaux. Et on peut le retrouver, je crois, en tout cas, sur différents aspects. Et alors, du coup, bon, je ne l'ai pas dit dans le papier, mais notamment à partir de 1860, sur le traité de libre-échange avec l'Angleterre, qui va finalement provoquer un débat houleux au sein de l'Assemblée nationale, enfin au sein du corps législatif, puisque des parlementaires qui sont pour beaucoup, et je l'ai dit, donc issus du monde économique, voient plutôt d'un mauvais œil le libre-échange initié avec l'Angleterre, et vont en tout cas, c'est un élément, et c'est en tout cas le premier, où il va avoir une contestation un petit peu de l'ordre établi, où dans les amendements, on va repérer en tout cas certains éléments sur la contestation de ce traité de libre-échange. Et de même, on va retrouver à peu près ce même aspect, au-delà de l'aspect économique, sur l'aspect religieux, et notamment par rapport à l'unité italienne et la défense de la papauté et de la sécurité du pape dans le processus d'unification italienne. Donc c'est, je crois, ces deux aspects-là et qui disent finalement beaucoup de choses sur à quel point finalement on peut accepter la domination, est-elle possible aussi de la dépasser, et en tout cas sur la question économique, des intérêts économiques et en même temps de la religion, ben, on trouve qu'il y a en tout cas quelques éléments qui sont déterminants. Et dernier point sur les candidatures officielles, là aussi il ne faut absolument pas voir la candidature officielle les candidats officiels élus comme un groupe unifié, puisque parmi ces candidats officiels on va retrouver deux types en tout cas de candidats officiels, ceux qui ont déjà été des parlementaires et les nouveaux entrants, autrement dit des établis et les bleus de la politique, et leur rapport avec le pouvoir et leur rapport avec leur travail législatif quotidien est modifié aussi par rapport à ce passé parlementaire et à leur expérience parlementaire passée. Et c'est justement à partir de 1860 qu'on va retrouver des parlementaires jamais élus qui, pour la première fois, vont s'associer à des parlementaires déjà élus mais aussi candidats officiels, et qui vont contester un petit peu l'ordre établi. En tout cas, les candidats officiels qui ne sont pas élus, qui perdent la candidature officielle, en général, c'est ceux qui ont contesté justement le régime. Et on profite de la nouvelle élection pour ne plus leur donner la candidature officielle, et sans candidature officielle, ils ne sont pas élus, et c'est assez facile à réaliser. Pour les quelques personnes qui sont élues, malgré le fait de ne pas avoir la candidature officielle, on retrouve d'un côté des Républicains, qui ont justement quand même, et souvent des Parisiens, on va retrouver par exemple après Adolphe Thiers qui va reprendre une place importante, Émile Ollivier, qui marquent quand même la vie parlementaire. Mais en tout cas, ce sont des Républicains implantés souvent dans les grandes villes et qui vont avoir un électorat mobilisé, mobilisable. Et de l'autre côté, les orléanistes, monarchistes, qui vont, eux, disposer d'une notabilité locale suffisamment puissante et forte pour ne pas avoir besoin de la candidature officielle. Et ce qui est le plus intéressant, mais ça du coup c'est l'objet aussi d'une partie de la thèse, c'est dans quelle mesure, à la fin du régime, la candidature officielle devient un handicap. Et comment finalement des députés vont refuser la candidature officielle, puisque voyant aussi le contexte politique et social changer, l'ouverture d'un petit peu des règles parlementaires, finalement, ils ne vont plus demander la candidature officielle pour laisser simplement leur nom et qu'ils considèrent comme suffisant. Et en effet, en général, ils sont élus sans candidature officielle. Voilà, c'est différents aspects.
Merci beaucoup. Si tu veux rebondir sur le suivi, s'il y en a des trucs, sinon... Voilà, c'est là on ouvre le débat à la salle. Si vous avez des questions, des remarques...
De l'empereur montre bien qu'il s'inscrit dans une forme de continuité avec son oncle et le corps législatif et le tribunal, parce qu'à l'époque il y avait aussi un tribunal pour le Premier Empire, était dans une position bien pire que celle du corps législatif du Second Empire. Et par ailleurs, vous avez mentionné l'article 10 de la Constitution de 1852. Je crois, ou l'article 3.
8.
Bref, il y a le pendant dans le Senatus Consul du 21 mai 1870, donc à la fin du Second Empire, où là, on ne dit pas l'empereur gouverne au moyen d'eux, mais avec le concours d'eux. Et donc, il me semble que la montée en puissance dans le cadre de l'Empire général du corps législatif, donc à partir de 1869, le Senatus Consul du 17 mai 1869, qui fait que, il me semble, en tout cas l'intitulé de votre contribution m'a un peu choqué, parce qu'il n'y a pas d'unité à l'intérieur du Second Empire, me semble-t-il, quant à la place du corps
Alors d'abord le lien, et merci pour votre remarque, et vous avez raison, et je suis content du coup que ça ait fait cet effet-là, parce que c'était un petit peu ce qui était recherché aussi. Dans la mesure où, d'abord, le lien avec le Premier Empire. Il est évident qu'il y a des références directes avec ce qui se fait sous le Premier Empire, ne serait-ce déjà que le nom des institutions. Et c'est justifié par Napoléon lui-même qui considère que, finalement, le Premier Empire, c'était le seul moment historique où la France allait bien. Donc voilà, c'est son point de départ d'analyse, bon, et qui après est décliné. Par contre, une spécificité, et pas des moindres sur le Second Empire, c'est que les députés sont élus, eux aussi, au suffrage universel direct. Et c'est dans cette mesure que cette évolution-là et cette transformation-là est du coup questionnable. Finalement, on veut cadenasser le Parlement, comme sous le Premier Empire, mais on garde l'élection. Et alors, ça doit questionner finalement sur le rapport des dignitaires de l'Empire à l'élection au suffrage universel. Et finalement, c'est compliqué de délégitimer un mode de désignation par lequel, en tout cas, on est issu en premier. Et c'est vrai que Napoléon III doit sa légitimité aussi de son élection comme président de la République au suffrage universel direct. Et donc il est vrai que le fait que des parlementaires le soient aussi, on va le retrouver dans toute une série d'archives sur justement la justification de l'importance du suffrage universel, ou même, et c'est passionnant, les dignitaires de l'Empire vont considérer que les véritables démocrates, ce sont eux, et que les républicains, eux, considèrent que le suffrage universel, c'est pas forcément extraordinaire, en faisant référence finalement en 1848, où on a supprimé un petit peu l'élection au suffrage universel, et ils vont considérer que par l'Empire, ceux, en tout cas que les républicains appelaient la populace, deviennent sous l'Empire le peuple. Et donc il y a un véritable discours de légitimation aussi de ce qu'est un nouveau mode de désignation électorale, et du coup ce qui fait une différence quand même notoire et avec le Premier Empire. Ensuite, pourquoi la communication du coup s'appelait un domestique d'État, et du coup c'était pour faire référence à Victor Hugo, mais ça a deux fonctions. D'abord, évidemment, dans les études en général sur le Second Empire, on va diviser l'Empire en deux périodes, et les historiens ne sont pas du tout d'accord en plus sur la manière dont on doit segmenter ces deux périodes, entre l'Empire autoritaire et l'Empire libéral. La problématique de ces aspects, c'est vraiment considéré parce qu'il y aurait deux régimes, sans considérer que les acteurs qui font ce régime sont les mêmes. Et c'est en cela aussi que le fait de sortir un petit peu d'une désunion entre, finalement, deux moments de l'Empire, et le fait de les rassembler permet, à mon avis, du coup, de voir un processus de parlementarisation. Et c'est pour ça que c'est il devient, enfin, le Parlement est d'abord un domestique d'État pour devenir finalement, et c'est pour ça que du coup ma thèse s'appelle Genèse et usage du parlementarisme, parce que se construit vraiment un parlementarisme et un type de parlementarisme particulier. Et donc c'est pour remettre, je pense, en contexte cette analyse plus large finalement, et pour essayer de ne pas segmenter ces périodes, mais je crois que l'analyse de l'Empire libéral ne peut pas se faire sans l'étude de l'Empire autoritaire, et du coup sortir un petit peu de l'idée que c'est simplement l'empereur qui, par son bon vouloir, aurait décidé, par toute une série de décrets, d'ouvrir un petit peu les espaces des possibles pour les députés, en leur laissant plus de place, alors que c'est finalement aussi, en tout cas c'est une proposition d'explication, mais c'est l'apprentissage aussi de ce travail parlementaire qui permet à des députés de contester un petit peu l'ordre établi, dans la mesure où, voilà, il y a toute une série de choses aussi, hein, des attentats, etc., mais... En tout cas, je crois que ça peut rentrer dans l'analyse pour comprendre aussi cette évolution.
Alors, sur la question « Sont-ils conscients de ce qui se passe ?» Oui. Alors, avec des moments de prise de conscience différents. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est que la majorité des députés ne comprennent pas au début de la guerre civile qu'une guerre civile est advenue, ce qui est tout à fait normal, personne ne s'y attend. Donc, ils sont absolument... Enfin, ils comprennent pas qu'on vienne les arrêter, que le ministre Coin, qui était le type à qui avant il donnait un peu d'argent lors des élections, les arrête désormais. Pour beaucoup, c'est quelque chose d'assez étrange. Il y en a qui comprennent très vite qu'il va y avoir des nouveaux rôles à jouer. Il y a toute une recherche en fait de nouveaux rôles. Il y a quelque chose de très drôle notamment, c'est il y a une partie de députés et de non-députés qui imagine que les élections vont avoir lieu en 1976 et que à ce moment-là, en fait, le nouveau député va être un député qui a une milice. Donc, il y a notamment un documentaire de Jocelyne Sarab qui est très drôle là-dessus, où on voit un futur candidat qui est en train de se préparer, qui a embauché un ancien militaire français, il lui a fait former 300 personnes et il est persuadé que désormais il y aura à nouveau des députés, mais que ce sera des députés avec une milice. Donc ils tâtonnent, beaucoup tâtonnent. Il y en a qui s'en vont directement, il y en a qui... il y a beaucoup de stratégies, mais plus on avance dans la période de la guerre, plus ce rôle du Parlement et ce nouveau rôle du député émerge. C'est de plus en plus net. Et on a vraiment des acteurs qui surjouent ça à plein.
S'il n'y a pas de questions, on va arrêter là. J'en profite au nom de mes collègues, les organisateurs de cette journée, enfin de ce colloque, de remercier l'ensemble des intervenants et des discutants pour la qualité de vos interventions, de vos discussions. Je remercie également les personnels dans la salle de votre présence et puis de l'attention que vous avez accordée à cette première journée de notre colloque. Alors, comme vous savez, le colloque continue demain. On a une deuxième journée demain, dans la même salle ici.
Et le cocktail.
Ah, j'ai oublié. Merci beaucoup. En vous souhaitant une agréable soirée. Puis à demain soir.